m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Un auteur de théâtre à succès, marié à une actrice excentrique au passé sulfureux, un inspecteur de police soupçonneux qui a parfois du mal à en placer une mais qui appuie toujours là où ça fait mal, un entrepreneur en bâtiment un peu véreux et franchement envahissant, à moins que ce ne soit l'inverse, une agente immobilière volubile qui fait visiter la maison à des clients pour le moins étranges, un dangereux maître chanteur avec tous les attributs du parfait malfrat, une belle galerie de personnages pour une heure et demie de rire, de coups de théâtre en série, de suspense haletant et de répliques qui font mouche. Ah, et puis j'allais oublier, il y a aussi un cadavre, encombrant, plus encombrant encore que cette énorme grenouille jaune et rose de 6 mètres de haut installée dans le jardin. Voici Joe, une pièce d'Alec Coppel adaptée et mise en scène par Benjamin Guillard. Il est avec nous et il est venu avec deux de ses comédiens, Didier Bourdon, alias le dramaturge Antoine Brisebard, et Dominique Pinon, alias l'inspecteur Ducrot qui se décarcasse pour arrêter le tueur. Il vous donne rendez-vous sur la scène du théâtre du Gymnase à Paris et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Didier Bourdon.
Bonjour.
Bonjour Benjamin Guillard.
Bonjour.
Alors je ne vais pas saluer tout de suite Dominique Pinon parce qu'il est coincé dans les embouteillages. J'espère qu'il va nous rejoindre très très rapidement. C'est jour de grève aujourd'hui à Paris, comme vous l'avez entendu dans les infos. Alors pour moi, et j'imagine pas seulement pour moi, Joe, c'est d'abord un film, pas forcément un film parmi les plus connus, mais un des films des acteurs cultes du cinéma français que sont Louis de Funès, Claude Jansac, Michel Galabru, Bernard Blier et quelques autres. En voici d'ailleurs un court extrait.
Allez, un tir
stop. Allons.
Allez,
qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ramène le kiosque de Madame Brisebard.
Bonne fête, mon amour.
Bonne fête, monsieur.
Qu'est-ce que c'est que ça, le kiosque de Madame Brisebard?
J'ai voulu faire une surprise pour la Saint-Antoine. Bah, tu as pas l'air enthousiasmé.
Moi, à la place de monsieur, je serai enthousiasmé.
Oh, fichez-moi la paix, vous.
C'est un joli cadeau.
Même un gros cadeau, oui.
Fichez-moi la paix.
Et tu ne devineras jamais où j'ai trouvé cette gloriette. Dans le puits de Dôme.
Dans le puits de Dôme?
Oui. Dans le puits de Dôme.
Et oui, dans le puits de Dôme.
Faites-moi le camp, là. Mais je ne pourrai jamais payer tout ça, jamais.
Oh, mais n'oublie pas que c'est un placement et que cette petite dépense donnera beaucoup de valeur à l'ensemble de la maison.
Et ça va me coûter combien, cette petite dépense?
Oh, j'ai fait une affaire. 250 000.
Quoi?
Sans les fondations.
Quoi?
Il faut que je me change. Il faut que j'aille au théâtre. Bonne fête, mon chéri.
Bonne fête, monsieur.
Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque?
Alors, pas de kiosque hein, dans votre version à vous de l'histoire, Benjamin Guillard, une œuvre contemporaine assez monumentale, mais est-ce que cette pièce, on peut dire qu'elle a commencé pour vous avec le film?
Cette pièce a totalement commencé avec le film. Moi, c'est un film. Alors, c'est un film qui a un statut un peu particulier parce qu'il est culte dans la filmographie de Funès. Il peut être culte comme il peut être complètement inconnu. Je fais partie des gens pour qui ce film est culte. J'ai grandi avec lui.
L'avez vu, revu, et revu.
J'ai vu, revu depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Cette histoire un peu folle, un peu dingue de ce dramaturge qui va chercher à faire disparaître un cadavre, voilà, ça m'a toujours beaucoup fait rire et beaucoup intrigué, je dois dire.
Alors, sauf que l'histoire du film, c'était quand même d'abord une pièce de théâtre, hein, une pièce de théâtre d'un Américain nommé Alec Coppel. Pourtant, vous n'avez pas repris directement le texte de Coppel, ni même d'ailleurs le texte de Claude Magnier qui a adapté la pièce en français sous ce titre, Joe. Vous l'avez donc réadapté. Pourquoi?
J'ai réadapté en partant quand même beaucoup du texte de Claude Magnier qui avait déjà fait une adaptation énorme du texte d'Alec Coppel. Je l'ai réadapté parce que je voulais le remettre un petit peu au goût du jour. Je voulais voilà, il y avait des choses qui étaient un peu datées dans
une petite opération de ravalement.
Exactement, une petite opération de ravalement et puis je voilà, il y avait des choses.
Bon, par exemple, il y a pas de kiosque par exemple.
Il y a pas de kiosque, non.
Mais il y a quand même la référence au Puits de Dôme que vous avez
oui,
conservé. Hein.
Tout à fait. Non, il y a pas de kiosque, je cherchais j'ai eu cette idée un jour de remplacer le kiosque par une œuvre d'art à la Jeff Koons, par exemple, on peut le dire. Voilà,
sauf qu'il ne s'appelle pas Jeff Koons dans le spectacle.
Non,
vous lui avez inventé un autre, Un autre nom d'artiste.
Voilà, John Kurczak.
Voilà, que vous connaissez tous, évidemment, très très bien, Didier Bourdon. Vous êtes un amateur d'art contemporain, tout le monde le sait.
C'est trop cher pour moi, hélas.
Voilà. Alors, à la base, en tout cas, le pitch... Après la pièce, peut-être que vous aurez les moyens, on sait jamais. À la base, en tout cas, le pitch est le même. Le personnage principal, c'est vous qui l'incarnez, Didier Bourdon. Il s'appelle Antoine Brisebard et il a un problème. Il est donc victime d'un maître chanteur. On peut dire déjà quand même à quel propos on le fait chanter?
Oui, en fait, on le comprend un peu au milieu de la pièce, c'est-à-dire qu'en fait, le maître chanteur menace de dévoiler des photos et de parler du passé de ma femme. Et là, moi, ça me bouleverse énormément. On va pas dévoiler que peut-être pour ma femme, c'était pas forcément très, très traumatisant. Pour moi, ça l'est. Donc, j'ai décidé, bien évidemment,
de trouver une solution.
Aussi. Oui, c'est ça. Une solution extrême.
Hein. Oui, parce que soit vous payez et repayez, et donc c'est un peu un cercle infernal, et vous risquez d'un peu d'être saigné comme un poulet. Soit vous allez voir la police, mais bon, c'est un peu ennuyeux parce que le secret, il va vite être dévoilé aussi.
Voilà. C'est un cauchemar. On l'a découvert plus ou moins ensemble, d'ailleurs, avec Benjamin. Enfin, Benjamin s'en doutait un peu, mais c'est vrai que moi, en tant qu'acteur, c'est écrit un peu comme si je rêvais, quoi. Et d'ailleurs, c'est bâti comme un cauchemar. C'est au moment où ça va très bien, d'un seul coup, il y a un coup de théâtre et je redescends aux enfers. Et au moment
où il n'y a pas qu'un seul coup de théâtre, il y a plein de coups de théâtre. C'est une pièce faite de coups de théâtre.
Mais dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens descendant comme dans le sens remontant, d'un seul coup, je suis sauvé. Notamment, là, j'ai Dominique Pinon là, qui vient nous rejoindre en face de moi. À la fin de la pièce, à un moment donné, je pense que je vais être couillonné parce qu'il sait où est le cadavre. Et en fait, parce que je l'ai caché dans un bar que j'ai fait à la va-vite la nuit, et l'inspecteur Ducrot pense que c'est une œuvre d'art. Vous voyez, donc il y a des trucs ahurissants, mais toujours qui tiennent bien la route. Et c'est sympa à jouer parce que voilà, c'est toujours sur le fil. Nous, on est à 100% dans la sincérité, mais c'est quand même très délirant, quoi.
Voilà. Alors ceux qui ont vu le film savent, en tout cas, même si on va pas évidemment raconter la fin et on va même essayer d'éviter d'évoquer toutes les péripéties du film, savent que donc au début du film, vous éliminez le maître chanteur. C'est donc ce qu'a résolu de faire. Enfin, oui, voilà. Ouais.
Non, là, ce qu'il faut dire, c'est que je veux
vous
pas.
Vous voulez l'éliminer. Vous voulez l'éliminer, mais vous voulez pas.
Et après, quand même, je le fais, mais
voilà. Et donc on voit. Voilà. Donc on voit le personnage arriver comme ça sur la scène du théâtre. Du gymnase, vous êtes là avec un flingue. Alors le maître chanteur, il est en imperméable, serviette, chapeau, lunettes noires, serviette, c'est vraiment le parfait habit de maître chanteur. Il se retrouve face à votre personnage, Didier Bourdon, face à Antoine Brisebard, qui l'attend de pied ferme, enfin pas tout à fait ferme quand même.
Je préfère payer. Oh. Je vous ai fait mal. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès là.
Voilà, donc c'est quand même l'une des scènes avec des coups de feu les plus drôles de l'histoire du théâtre du gymnase, je pense. C'est là que les ennuis vont commencer pour Antoine Brisebard. Didier Bourdon, il devient tueur, il devient mauvais garçon. Malgré lui, parce qu'il veut pas tirer, il veut pas faire de mal, il s'excuse auprès de sa victime, c'est incroyable.
Bah oui, parce qu'il voulait pas le faire, parce qu'il est incapable de tuer une mouche, mais
c'est un faible.
Non, comme je vous dis, c'est un cauchemar, c'est un fantasme en fait. C'est un faible, non, parce qu'en même temps, il a quand même tout préparé. Alors c'est là où on...
Il y a tout un mode d'emploi, d'ailleurs.
Oui, ouais, on rejoint le metteur en scène, c'est-à-dire vraiment, il a tout pris. D'ailleurs, il essaie de se convaincre. Et à partir du moment où il voit bien que la personne est décédée, mais il se dit, bon, allons jusqu'au bout, c'est ma destinée, c'est mon destin. Et alors, il l'enroule, et puis après, voilà, et puis après, les événements vont aussi se dérouler de manière... incroyable.
Alors, être metteur en scène, je sais pas si vous êtes d'accord, Benjamin Guillard, c'est aussi faire preuve d'imagination.
Oui.
Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Monsieur Brisebard, il va faire preuve d'imagination, d'ingéniosité, de mensonge pour dissimuler le corps aux yeux de l'ensemble des personnages qui vont défiler dans son salon, et notamment donc à l'inspecteur de police, l'inspecteur Ducrot que vous incarnez, Dominique Pinon. Est-ce que vous diriez que l'inspecteur Ducrot est un grand flic? Je ne parle pas par la taille, hein, je parle par le talent et par la carrière.
Je sais pas si c'est un grand flic.
C'est oui et non, en fait.
C'est oui et non.
Il est génial par moment.
C'est oui et non, mais...
Il a sa petite réputation.
Il a sa petite réputation, oui. Puis il s'appelle pas Ducrot pour rien, à mon avis, parce que dès qu'il arrive chez Monsieur Brisebard, ses crocs sont ses yeux qui se pique dans son dos, il va pas le lâcher, lui, jusqu'à la fin de la pièce. En sens ça, c'est un grand flic. Mais c'est un flic moyen, parce qu'il va un peu, quand même, au fur et à mesure de son enquête, il va plus rien comprendre du tout.
Oui, visiblement, il s'y connaît quand même plus en art contemporain
Il a
l'œil aussi pour la
contemporain. Oui, il a eu être chargé d'enquête sur des faux et des trucs, donc il a l'œil. Dès qu'il arrive dans la maison, il voit que c'est pas un vrai Kurzak.
Alors, j'étais dans la salle, moi, du théâtre du Gymnase, ouais, samedi soir, c'est ça. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire à la sortie, mais ce flic, il a un petit côté Columbo, vous êtes d'accord?
Oui, sans doute. Oui, il y a quelques indications qui... Oui, le H j'oubliais,
voilà,
il y a des choses comme ça. Mais c'est pas... Mais il est... Je regarde de le dire, mais il est moins bon que Columbo.
Oui, quand même. Il est moins bon, il est moins pervers peut-être aussi que Columbo, mais il y a quand même du second degré dans ses phrases. Hein,
oui, il y a du second degré. Et puis, je vous dis, dès qu'il a Brisebard dans le collimateur, il se gêne pas pour le lâcher. Ouais.
Monsieur Brisebard, sans doute.
Oui.
Enchanté, monsieur.
Enchanté, inspecteur. Je vous offre quelque chose à boire.
Je ne bois jamais pendant le travail. Mais cette fois-ci, je ferai une exception. Merci. Eh bien, permettez-moi de boire à votre santé.
Votre santé, inspecteur.
Il est très bon. Maintenant, arrivons-en tout de suite à l'objet de ma petite visite. Connaissez-vous Monsieur Jo?
Voilà, on a donc les deux fauves, là, comme ça, sur la scène du théâtre du Gymnase, Benjamin Guire. Pourquoi est-ce que vous avez confié le rôle de Brisebard à Bourdon et celui de Ducrot à Dominique Pinon?
Oh là là, quelle question.
Le casting dans une pièce comme celle-ci, ça compte énormément.
C'est vrai qu'il est très important. Non, mais j'avais envie de travailler avec des acteurs que j'admire et c'était l'occasion. Il fallait des génies pour jouer cette pièce. Voilà, il y avait beaucoup de...
Alors, ils sont rouges tous les deux.
Mais...
C'est RFI.
C'était un spectacle qui me tenait très à cœur depuis quelques années maintenant, et voilà, je rêvais d'un casting comme celui qui est présent tous les soirs au théâtre du Gymnase, et j'en suis très très heureux.
Mais alors, dans le film de Giraud, le rôle de l'inspecteur est joué par Bernard Blier. Alors Blier, c'est une vraie amour à glace, hein. C'est pas tout à fait le cas de Dominique Pinon, grand par le talent, mais peut-être moins par la taille. Il y a une scène du film qui se moque de la différence de taille, d'ailleurs, entre le personnage de Funès et le personnage de Blier. Je me suis dit, quand j'ai vu Pinon en scène, vous avez peut-être voulu prendre un petit peu le contre-pied du film, non?
Ah oui, non, c'est sûr que j'avais pas du tout envie, moi, de coller au film. D'abord, j'avais envie vraiment d'adapter la pièce de théâtre qui était à l'origine du film, et pas du tout de... Il y a beaucoup de gags qui sont dans le film qu'on n'a pas du tout récupéré, et puis on a essayé d'en inventer d'autres. C'était vraiment de partir de la pièce, et puis d'essayer de réinventer un peu tout ça sans être complètement bouffé par le film.
Mais est-ce que vous auriez...
La pièce est très différente du film.
Il y a des points communs quand même, parce que entre Blier et Dominique Pinon, c'est ce côté des personnages étranges aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est leur vie. D'ailleurs, dès le départ, ils découvrent que c'est un faux Kurzak. Là, il y a un petit côté Columbo, même si Columbo parle de sa femme qu'on ne voit jamais. Il y a toujours ils font un peu quand même un peu extraterrestre, ces personnages. On ne sait pas ce qu'elle est leur vie privée. Et je trouve qu'il y a un point commun, parce que Lié avait aussi ce côté un peu hors norme, quoi.
Dominique Pinon.
Moi, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas voulu voir le film.
Il fallait que vous soyez dans votre rôle aucune inspiration de quelle sorte que le texte.
Voilà, que j'ai pas d'a priori ni de choses comme ça, donc j'ai lu la pièce et voilà, ça m'a suffi.
Est-ce que vous auriez pu, Benjamin Guillard, inverser les rôles et donner le rôle de Brisebard à Dominique Pinon? Vous n'êtes pas posé cette question.
Je ne me suis pas du tout posé cette question.
Alors moi je me la suis posée parce qu'il se trouve, Dominique Pinon, que vous avez rendu hommage à Louis de Funès. Il y a quelques années, à Louis de Funès et à l'art comique en général, en 1998, sur un texte de Valère Novarina, dans une mise en scène de Renaud Cogeau, la pièce s'appelait « Pour Louis de Funès ».
Louis de Funès était, au théâtre, un acteur doué d'une force extraordinaire, un danseur fulgurant, qui semblait aller au-delà de ses forces, excéder la demande, et donner au public 10 fois plus que les figures attendues.
L'acteur déchire sa tête en deux. Il n'est venu au théâtre que pour ça. Déchirer sa tête en 3. Refaire son corps avec des mots. Remettre une viande dans les idées. Avoir les langues aux pieds qui parlent. Et marcher à viva. Le bon acteur qui joue, nul et parfait, sait que c'est son absence seule qui est spectaculaire.
Vous partagez, Dominique Pinon, l'admiration de Novarina pour Louis de Funès ?
Oui, absolument, bien sûr.
En quoi est-il un grand acteur, Louis de Funès, pour vous ?
C'est un grand acteur comique, voilà. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'était que grand acteur comique.
Qu'il n'ait été que reconnu ainsi.
Oui. Parce que en général, les grands comiques sont aussi de grands tragédiens. Je le pense vraiment, sincèrement.
Quand on fait rire, on peut aussi susciter toutes les autres émotions.
Absolument.
Et les comiques ne sont pas reconnus, visiblement, d'après ce que vous me dites, à la hauteur.
Les comiques sont toujours un peu dédaignés, méprisés, alors que ça ne devrait pas.
Voilà, Louis de Funès, donc, dans Jo et aussi dans l'ensemble de sa carrière, avait un jeu extrêmement physique, gesticulant, très nerveux avec son corps. Didier Bourdon, est-ce que vous appartenez au même sillon, au même genre d'acteur? Parce que quand on vous voit sur scène,
pas tout à fait.
Et pourtant.
Pas tout à fait, non, je ne veux pas me comparer du tout à De Funès.
Dans la façon de jouer avec le
avec De Funès, c'était à la fois un grand acteur et puis il avait une personnalité très forte, quoi, à un moment. D'ailleurs, il a mis du temps à percer, lui. Hein, parce qu'il avait un truc à lui incroyable. Et c'est vrai que on parlait de comédie, tragédie, dans La Grande Vadrouille, il était à la limite d'être un personnage odieux et horrible, quoi. Donc ça fait rire, mais ça pourrait vite passer de l'autre côté, quoi. Non, en revanche, que j'aime bien, moi, en tant qu'acteur, j'aime bien depuis le conservatoire, j'aime bien, en effet, et dans Les Inconnus, n'en parlons pas, j'aime bien incarner des personnages différents. Mon professeur Robert Manuel m'avait dit, tu pourras faire plein de personnages différents, donc voilà. Après, il y a un emploi qui est très difficile pour moi, c'est l'emploi de naïf. Quand on m'avait demandé de remplacer Jacques Villeray dans Le Dîner de cons, j'ai dit non, je remplace pas ce monsieur. Voilà, parce que ça, je serais incapable d'être... Je peux le faire dans un sketch à la rigueur, mais toute une pièce, il faut avoir cet univers-là qu'avait Jacques Villeray. Et qui était un immense acteur.
Alors, vous avez entendu l'extrait à l'instant, hein, Didier Bourdon, Dominique Pinon, qui, avec les mots de Novarina, rendait hommage à De Funès et qui disait « L'acteur est venu au théâtre pour déchirer sa tête en 2 ou en 3 ». Comment est-ce qu'on apprend à déchirer sa tête en 2 ou en 3, Didier Bourdon? Parce que c'est ce que vous faites.
Troisième mi-temps de rugby, monsieur.
Vous avez un visage extrêmement plastique là sur la
mais
scène.
C'est mon père qui était il travaillait à l'EDF et Gaz de France, mais qui je pense était quand même un acteur peut-être contrarié jeune. Et Dieu sait, c'est un homme un peu sévère pour moi. Mais je me souviens une fois, il m'avait dit, allez, Didier, c'était à la rue Blanche, je crois, avant le spectacle, il m'a dit, maintenant, il faut s'éclater. C'est le mot, éclater. Il faut y aller, quoi. Faut tout donner. Et là, on parlait de Dominique, samedi soir, il nous a fait un truc à la fin. Après, les acteurs font ou pas, mais il a fait une tête, qui était excellente à la fin, là, comme ça. C'est ça, c'est d'ailleurs surprenant, mais toujours dans la justesse du jeu, quoi. C'est ça, on peut aller loin. Et Clavier m'avait dit aussi un truc, parce que Clavier, quand même, un type qui a fait pas mal de scènes, m'avait dit, parce que La Cage aux Folles, on l'a fait en 2 temps. Il m'a dit, tu verras, quand on reprendra 4 mois plus tard, tu vas trouver des choses nouvelles. Mmh. Et c'est vrai. Et je suis sûr que cette pièce-là, on la reprendrait dans 6 mois, on trouverait des choses nouvelles.
Ça veut dire que d'une soirée à l'autre, Dominique Pinon, vous ne faites pas la même tête à chaque fois au moment de la scène, c'est ça? Ou bien samedi, c'était quand même un petit peu particulier?
Vers la fin, il y a eu un délire qui était génial.
Non, parce que samedi, j'étais dans une jubilation d'être enfin un peu dans les rails, justement. Parce que c'est toujours douloureux de répéter, de trouver le bon chemin et de s'accorder avec les autres. On a toujours et puis avec le metteur en scène aussi, on a toujours nos obsessions, nos trucs. Et puis, il arrive un moment où, d'un seul coup, presque par miracle, tiens, tout ça, ça y est, ça commence à prendre. Et c'est pour ça peut-être que samedi, je me suis senti un peu...
Mais c'est vrai. Moi, c'était voilà. Vendredi.
Mais ce que dit Didier est vrai, c'est-à-dire que...
Ce serait bien qu'un soir, tout le monde soit au diapason.
Ah non, mais c'est quelque chose qu'ensuite, normalement, on a acquis pour le reste.
Mais alors, c'est vrai que vous faites tous les deux du cinéma. On se dit, au cinéma, on joue énormément avec ses yeux. Est-ce qu'on pourrait dire, Dominique Pinon, qu'au théâtre, on joue plus avec sa bouche, avec son visage, qu'avec son regard?
Pour moi, c'est exactement la même chose. Sauf que au cinéma, il y a le gros plan et au théâtre, il n'y a pas le gros plan.
Mais qu'est-ce que ça change, ça, au jeu?
Bah, ça change qu'il faut jouer pour, comme si on était dans un plan très large, quoi. Et
faut porter la voix, c'est sûr.
Voilà, il faut porter la voix. Bon, mais sinon, le but est le même, hein, c'est de jouer et de capter l'attention et de et de divertir et de que les gens s'intéressent à ce qui se passe sur scène et aux personnages que vous jouez.
Et pour ça, la question du rythme, Benjamin Guillard, est évidemment extrêmement extrêmement importante. Et on a vraiment l'impression d'un bout à l'autre de la pièce que les répliques doivent fuser, mais de façon extrêmement rapide, extrêmement vive. Il y a très peu de place pour les silences, quoi, dans cette pièce. Vous avez voulu gommer un petit peu ça?
Je pense que c'est un théâtre qui se joue avec très peu de silence, ouais. Ou alors des silences qui sont voulus et maîtrisés et qui racontent quelque chose. Mais sinon, c'est un théâtre de boulevard se joue vite. C'est des gens qui parlent et qui réfléchissent après. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui amène tout d'un coup une folie, quelque chose d'animal, quelque chose de, qui n'est pas raisonnable, quoi. Je pense que c'est un théâtre qui se joue, qui ne peut pas être raisonnable.
Ah bon, un théâtre donc complètement déraisonnable, et ça tombe bien parce que vous êtes plutôt déraisonnable, Didier Bourdon.
Alors je vous parlais pas de
ça. Non, c'est une question.
non, mais ça s'apprend aussi aux rêves. Les rêves sont souvent comme ça. Voilà, je veux pas raconter le rêve que
donc
j'ai
on est vraiment dans un cauchemar. Hein. Ça fait plusieurs fois que vous parlez du rêve.
Ah oui, parce que cette pièce, pour moi, c'est que c'est ça. C'est par exemple l'arrivée de Dominique, de l'inspecteur. C'est à un moment donné où mon personnage se calme un peu. Il dit bon, tout est fait, voilà, le cadavre est enterré, machin. Et pof, ça arrive. Oui, un truc, inspecteur. Et hop, et je sens bien dans la salle les gens. Ah, ça y est, ça va redémarrer.
Alors l'œuf rebondit là-dessus parce que vous sentez bien la salle. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que
partie du théâtre,
oui. Voilà, vous faites mais, au théâtre, mais là particulièrement. Non seulement il n'y a pas de quatrième mur, mais on a presque l'impression que vous tendez des perches au spectateur Dominique Pinon. Vous jouez en permanence avec le public l'un et l'autre.
Bah, on joue surtout l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Le public, on a évidemment une oreille pour le public parce que il faut l'entendre, il faut se nourrir de ses rires, il faut se.
C'est-à-dire que vous vous appuyez sur les rires de la salle pour relancer la rythmique de la scène.
L'extrait que vous avez passé tout à l'heure, Monsieur l'inspecteur, là, quand il dit Monsieur Brisbard, il y a un silence qui est assez jouissif. On dit oh là, ça va chauffer pour Monsieur Brisbard.
Oui, bien sûr.
Mais alors voilà, le silence doit être...
Le silence doit...
Millimétré.
Oui.
Alors, après, les rires allument l'acteur aussi. Alors même s'il ne le veut pas, il y a quelque chose qui le met dans un état... Qui le met très au présent déjà et qui le met dans un état particulier. Quoi.
Mais c'est vrai que le personnage de Brisbard, le personnage de Bourdon, très souvent regarde la salle. Pas forcément le public, mais regarde vers la salle et fait justement ce visage extrêmement plastique, capable de passer d'une émotion à une autre, d'un extrême à l'autre en une demi-seconde, quoi.
On a besoin de ça. Ça fait partie du clown aussi. Alors, il s'agit pas d'aller chercher la salle en faisant des regards complices ou des grands clins d'œil. Mais le clown, c'est ça aussi. C'est donner son visage, l'acteur donne son visage au public et toute son émotion passe par le public.
Sur donner le visage, bon. Ce sont des indications de Benjamin. Et ça participe encore une fois du cauchemar, comme je dis, entre guillemets, c'est qu'en fait, j'ai tellement peur qu'on lise sur mon visage la vérité que je me cache, notamment avec l'inspecteur. Il me parle et moi je suis là, bon, notamment quand on apprend le poteau rose que je sais pas qui j'ai tué en fait. J'ai tellement peur d'être dévisagé, c'est le mot, que c'est assez juste d'être. Je suis figé vers le public, mais c'est pas vers le public, c'est pour cacher mon visage, même par rapport à ma femme, Audrey Fleurot, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais on va en parler.
On va y venir.
J'ai peur aussi qu'elle découvre, qu'elle dise, mais il est pas, d'ailleurs, elle le joue comme ça, hein. Elle voit bien que son mari est quand même dans une, un peu bizarre, quand même.
Vous m'en direz des nouvelles? Sur RFI.
Les comédiens Didier Bourdon, Dominique Pinon et le metteur en scène Benjamin Guillard sont avec nous sur RFI pour Jo, actuellement à l'affiche du Théâtre du Gymnase à Paris. Dominique Pinon joue l'inspecteur de police, Didier Bourdon joue Monsieur Brisebard, et c'est donc Audrey Fleurot, vous le disiez à l'instant, Didier Bourdon, qui joue votre épouse Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, tiens, votre épouse, celle qui partage la vie de votre
personnage? Yvonne Printemps.
Yvonne Printemps.
Et moi, je suis Pierre Frenichman.
Voilà, c'est plutôt pas mal comme...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est une... voilà, je suis amoureux d'un volcan avec toutes les qualités et les défauts du volcan, c'est-à-dire elle dépense sans compter, elle est brillante, enfin brillante, oui, moi je la trouve brillante. Après, en tant qu'actrice, à un moment donné dans la pièce, comme elle croit que j'écris une pièce policière, elle a envie de prendre un tournant dans sa carrière artistique et d'arrêter le boulevard.
Elle mais veut voilà. Un rôle dramatique à l'américaine.
Voilà, mais elle est très inconséquente et c'est ce qui, voilà, elle va dire bleu et les cinq minutes après, elle va penser rouge. Mais en même temps, avec énormément de légèreté, d'excentricité, et ce qui fait que moi je joue comme ça, c'est les indications de Benjamin, mais j'avais pas trop besoin en regardant André. Mais voilà, le mec, il est quand même un peu fasciné par sa femme.
Il s'aime follement.
Oui, ben, le mot follement est juste, c'est pour ça qu'il est prêt à faire une folie.
Et vous, madame Brisebard, connaissez-vous monsieur Jo?
Monsieur
Jo? Eh ben non, alors qui est-ce?
Il se passe une chose étrange.
Laquelle?
Figurez-vous que c'était un maître chanteur.
Non.
Et nous avons retrouvé chez lui une liste de gens qu'il faisait chanter.
Non.
Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, chère madame, car vous figurez sur cette liste.
Moi?
Vous.
Ma femme?
Oui.
Non.
Je
n'en reviens pas.
Et c'est pourquoi, logiquement, je pensais qu'il avait essayé de vous contacter.
Il a essayé de contacter, toi, Sylvie?
Bah, non, et toi, Antoine?
Oh, non, moi non plus.
Alors là, je ne comprends pas, hein.
Vous êtes pourtant les victimes idéales pour ce genre d'individu, un auteur à succès, une comédienne de renom et de qualité.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Jo était en droit de penser que vous seriez prêt à lui verser une forte somme afin d'éviter que votre nom soit mêlé à un scandale.
Un scandale? Enfin, quel scandale? J'ai rien à me reprocher.
Pourtant, votre nom est bien sur la liste.
Sur la liste de Jo?
Non.
C'est...
Ouais, il y a beaucoup d'onomatopées hein, dans votre texte, Benjamin Guillard, beaucoup d'exclamations. Et c'est vrai qu'Audrey Fleurot, même quand elle joue la femme, quand elle est dans son rôle d'épouse, on a l'impression qu'elle est actrice en permanence, quoi. Non seulement actrice devant nos yeux à nous, mais aussi actrice de sa propre existence.
Oui, c'est quelqu'un qui peut changer d'avis très rapidement, mais quand elle a quelque chose en tête, elle l'a vraiment en tête, quoi. Et moi, ça me fait énormément rire, je veux dire, c'est gens qui peuvent changer d'avis comme ça, mais qui en même temps, quand ils disent quelque chose, ils y croient vraiment, hein, ils croient vraiment à ce qu'ils disent, quoi.
Vous avez développé le rôle d'Audrey Fleurot par rapport au film en particulier?
Je l'ai développé. Il semble. Ouais, je l'ai développé
pour quelle raison?
Parce que je voulais pas que ça soit un rôle de faire valoir qui sert la soupe. Je voulais qu'elle ait une existence propre. Je trouvais qu'il y avait dans l'histoire tout pour qu'elle se développe.
Voilà. Et puis on va aller donc vraiment de coup de théâtre en coup de théâtre. On en dira pas plus. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de théâtre. Justement, on est un peu dans la douche écossaise. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Didier Bourdon. Dès que Brisebard se croit à l'abri, il respire une demi-seconde et puis ensuite il y a une nouvelle tuile qui lui tombe dessus. On parlait de la rythmique du spectacle qui est vraiment très très importante, mais j'y reviens dans un spectacle comique et a fortiori dans un spectacle de boulevard, Benjamin Guillard. Alors justement, avec toutes ces péripéties, tous ces hauts, tous ces bas, on a vraiment l'impression d'une pièce presque sous forme de sinusoïde. Comment est-ce que vous pouvez justement donner à la fois une place à la respiration pour les acteurs et donner une place à la compréhension pour le spectateur, parce que ça va quand même extrêmement vite.
Ça va vite. Alors c'est une pièce qui se joue. Il n'y a pas d'unité de temps. Il y a une unité de lieu, mais il n'y a pas d'unité de temps. Donc il y a des ellipses. Donc avec des tombées de rideaux, des réouvertures de rideaux, et la danse que je crois se joue des petits temps où on fait le point. Où, voilà. Après l'intrigue n'est pas particulièrement compliquée. On la suit relativement facilement. Pourquoi je vais commencer?
Non, vous parlez de la rythmique, effectivement, du spectacle.
Ça oui, c'est vrai qu'il y a peu de respiration. Il y a peu de respiration. Après, il y a des vrais temps de silence aussi, parce que ça reste une pièce policière quand même, avec des temps de suspense. Voilà, c'était important pour moi aussi de jouer à fond la carte de la pièce policière. Voilà, que ce soit pas un prétexte, mais une...
«
C'est Raymond Lefebvre qui signe la musique du film Joe, film de Jean Giraud en 1971, VMDN sur RFI avec les comédiens Didier Bourdon et Dominique Pinon et le metteur en scène Benjamin Guillard pour la pièce Joe, actuellement à l'affiche du théâtre du Gymnase à Paris. Une pièce qui respecte en tout cas la règle classique de l'unité de lieu, hein, on le disait il y a un instant, Benjamin Guillard, le lieu c'est le salon, un salon bourgeois du couple Brisbard. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le décorateur qui s'appelle Jean Haas sur cette pièce?
Ça fait plusieurs fois que je travaille avec lui. On cherchait... C'est-à-dire que j'avais pas envie d'un intérieur uniquement fonctionnel. J'avais envie qu'il puisse raconter quelque chose. C'est un espace relativement vide. Voilà, c'est l'intérieur d'une maison. Et puis, il nous fallait un espace extérieur. Donc, c'est une maison qui donne sur un jardin. Voilà, on a... Comment on a travaillé? C'est dur de répondre à cette question. Mais en tout cas, j'avais pas envie d'un décor classique uniquement utilitaire. Voilà. Alors après, dans le théâtre de boulevard, effectivement, on a besoin de portes, par
oui,
exemple.
Alors, il y a des portes, mais voilà. Elles claquent pas tant que ça, finalement.
Elles claquent pas tant que ça, non. Ouais. Et puis, il n'y a pas de... J'avais pas envie de choses anecdotiques dans ce décor. Donc, il n'y a pas de... C'est relativement épuré.
Puis, il y a un grand canapé.
Mais il y a un canapé. On a besoin d'un canapé.
Alors, pourquoi vous avez besoin d'un canapé? Pourquoi vous avez besoin d'un canapé?
Il faut bien cacher le cœur.
Non, mais attendez. Il y aurait pu y avoir des fauteuils. Il y aurait pu... Là, pour le coup, on est comme dans le film, pour le coup.
Ouais. C'est vrai que le canapé est un objet du film. C'est même pour ça, notamment, que le film est connu, pour cette histoire de canapé. Il fallait un canapé, parce que c'était un clin d'œil inconscient, sans doute. Sans doute, oui.
Et puis, on cache le cadavre, quand même. C'est important. Et puis, je trouve que le canapé, ça représente bien la maison, puisque ma femme, elle dit voilà, la campagne, les gens viennent moins, donc ils aiment bien recevoir quand même. Ils ont des relations.
Oui, ah, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est un salon. Voilà, c'est un salon, mais ce salon, il va aussi devenir un peu un hall de gare, parce que c'est quand même incroyable le nombre de gens qui vont passer par ce salon, qui vont entrer et sortir sans forcément claquer les portes. Mais bon, on est vraiment aussi dans un théâtre de boulevard, mais on rentre par une porte et on sort par l'autre. On rentre à l'intérieur, on sort dans le jardin. En plus, il y a du hors-champ hein, aussi à un certain moment. Il y a du suspense, il y a du rire. C'est assez jouissif. Et c'est vrai qu'on a un défilé de second rôle, comme ça, Benjamin Guillard, qui sont tous plus croustillants les uns que les autres. Est-ce que vous avez autant soigné les personnages secondaires que les trois rôles principaux?
Ah bah oui, c'était extrêmement important pour moi, parce que tous ces personnages participent de la folie de cette histoire.
Mais c'est plus que des faire-valoir.
Ah oui, complètement. Oui. Il participe du cauchemar, effectivement, d'Antoine Brisbard. Il participe de la dinguerie de la pièce. Pour moi, c'est extrêmement important qu'ils soient tous assez hauts en couleur. Il y a un côté un peu bande dessinée dans tout ça, quand même. J'avais envie de ça, avec des personnages tous plus incongrus les uns que les autres.
Alors, il y a la belle-mère qui est toujours à côté de la plaque et qui participe aussi grandement au comique, parce qu'à chaque fois qu'elle entre en scène, on sait qu'on va être plié en deux au bout de quelques secondes. Il y a le meilleur ami qui est avocat. Il y a le chef de chantier. Italien, forcément.
Italien.
Monsieur Tonelotti, ouais, pourquoi italien?
Italien dans la version d'origine, avec un accent italien dans la version d'origine.
Là, c'est Galabru, hein, dans la version du film,
mais avant, dans la version de la pièce, il a vraiment un accent très marqué italien. Il est même écrit avec un accent, c'est assez étonnant.
C'est
ça, je l'ai enlevé parce
Galabru, non, juste pour dire que même dans le film, les seconds rôles, ils étaient bien soignés. C'était un grand facteur.
Pas n'importe qui, effectivement, Didier Bourdon. Une agente immobilière, alors peut-être que à l'oreille, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit accent québécois quand même, non? Dominique Pinon, c'est un vrai accent québécois?
C'est un vrai, je confirme.
Ouais. Voilà, mais le rôle, là, pour le coup, n'a pas été écrit avec accent.
Pas du tout avec accent. C'est venu un soir où je réfléchissais à qui pouvait jouer ça, et je me suis dit pourquoi pas un accent un peu marqué, dont on ne saura rien finalement, on ne sait pas pourquoi, d'où vient cette femme.
Parce que les agents immobiliers, on se demande pourquoi une Québécoise.
Tout à fait, mais je trouvais que ça participait d'un personnage comme ça, qui trimballe avec lui un passé dont on ne saura rien, mais moi ça m'amuse beaucoup, je dois dire.
Voilà, Madame Cramuzel, elle s'appelle, c'est ça, et ses clients s'appellent Monsieur et Madame Grinder. On va pas tout révéler aussi, mais bon, la femme, enfin, on tient une sacrée couche quand même. voilà. Donc, il y a les policiers, hein, qui entourent le personnage de Dominique Pinon. Alors, on est quand même très loin de ce que vous avez l'habitude de faire, Benjamin Guillard, parce que vous êtes quand même un spécialiste des seuls en scène. Vous avez reçu le Molière du meilleur seul en scène pour Vous n'aurez pas ma haine avec Raphaël Personnas. Vous avez travaillé avec des gens comme Palmade, Olivier Broche, Morel, Saladin. Là, vous dirigez, si on vient de le dire, une pléiade de comédiens. C'est le même exercice ou ça n'a rien à voir?
C'est très différent. C'est très différent, effectivement. Mais j'avais envie et besoin de ça, je crois. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup sur des seuls en scène. Je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie. J'aime beaucoup faire ça et je le referai avec grand bonheur. Mais j'avais pas envie d'avoir cette étiquette-là de metteur en scène qui fait que des seuls en scène.
Alors, qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça change
Qu'est-ce que
ça change Non, mais c'est un peu d'insomnie. On peut faire des insomnies avec des silences aussi, ceci dit. Mais c'est très jouissif. Moi, j'aime le théâtre. J'aime les troupes. J'aime les groupes. J'aime l'émulation de la troupe. Voilà. Donc, ça m'a apporté beaucoup de bonheur.
Madame Brisbard, je voulais encore vous remercier pour les invitations au théâtre l'autre soir.
Je vous en prie.
Je ne sais pas comment vous faites pour retenir tout ce texte. C'est impressionnant. En sortant avec mon cousin, c'est ce qu'on s'est dit.
C'est tout ce que vous vous êtes dit ? Non, parce que retenir du texte, c'est une partie infime de mon travail d'actrice, vous savez. Je vous ai fait rire, quand même ?
Oui, quand même. C'était très sympa.
Voilà, Didier Brice sur la scène du théâtre du Gymnase avec Audrey Fleurot. Alors, elle a raison quand même, Madame Brisbard. Retenir un texte, c'est une partie infime du travail d'acteur. Je pense que c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais c'est quand même capital. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui se demandent justement, un peu comme Monsieur Tonelotti, comment on fait pour apprendre un texte. Alors, je vous renvoie la question à Dominique Pinon, tiens, par exemple. Est-ce que vous avez une technique particulière?
Non, la question ne se pose pas pour moi parce que je fais un métier que j'aime. Alors tout ce qu'il faut faire pour l'exercer, moi j'adore apprendre des textes. Moi j'apprends toujours seul, voilà. Et je sais que chacun a ses méthodes différentes.
Alors comment vous faites? Décrivez-nous. Vous êtes assis dans votre lit devant un miroir.
Je peux être assis debout, texte à la main, et puis voilà. Puis je lis, je relis, j'ingurgite, je digère, et puis au bout d'un moment ça rentre. Mais c'est plus vrai pour quand on est seul en scène, parce que on a aussi besoin des autres. Il y a une mémoire du geste, une mémoire du mouvement qui fait que le texte rentre tout seul en fait au fur et à mesure des répétitions, puisque voilà, on répète des places, des machins, et on sait que tel moment ça vient à tel moment, et puis voilà.
Didier Bourdon, apprendre son texte, non, mais les autres vous aident ou c'est d'abord un exercice solitaire?
Là, c'est un exercice un peu solitaire au départ, mais ma fille de 9 ans m'a récité sa poésie, elle la savait pas très bien, et elle l'a dit pas mal, mais j'ai dit maintenant on la refait, tu relis. Ah non, je la sais. Non, tu relis. Ce que disait à l'instant Dominique, c'est bien de relire, parce que en fait, moi, même quand on sait le texte, j'aime bien relire, parce que ça nous évite que la mémoire se perturbe, se fige. Et donc c'est bien de relire, et c'est comme ça qu'on... Mais j'avoue, très honnêtement, parfois, même moi, à mon âge, encore, quand je vais voir des gens au théâtre, je suis un peu surpris. Ah, putain, tout le texte, ils ont appris. C'est quand même c'est étonnant, quand même. Ou même en musique, les mecs qui font un morceau de piano, sans partition. Ben, en fait, c'est comme un chemin. En fait, ils connaissent le chemin par cœur. Donc là, ils savent que là, il faut tourner à droite, puis après à gauche. Mais c'est quand même impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant.
La mémoire est incroyable.
Même soi-même, on est étonné, parfois, de se dire, tiens, déjà, je sais ça. Et d'ailleurs, faut se méfier des passages qu'on sait au début. C'est peut-être là où après, on a des trous.
Alors, cette pièce, on le disait, c'est une pièce de boulevard. Et c'est aussi un policier. Alors, je sais pas s'il faut dire un policier boulevardier ou un boulevard policier, Benjamin Guillard, mais c'est aussi une mise en abîme, parce que, à travers le personnage d'André Fleurot, et grâce à son personnage, vous nous parlez aussi du théâtre, vous nous parlez du métier de comédien, vous nous parlez des textes de théâtre, du dramaturge, du metteur en scène. Vous vouliez aussi nous parler tout simplement de votre théâtre, de votre art, de votre métier?
Oui, après je pense que c'est quelque chose qui est présent dans la pièce originale et que j'ai voulu effectivement pousser un petit peu ça, par exemple, histoire de... C'est quelque chose qu'on, quand on est comédien, on peut entendre ça, disons, comment tu fais pour apprendre tout ce texte? C'était toujours un peu, en sortant de scène, c'est toujours un petit peu... Ça peut être un peu gênant, parce que j'ai envie de dire aux gens, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans le métier. Voilà, c'est des choses qui reviennent beaucoup, voilà, ça m'amusait de les mettre dans le spectacle. Il y a quelques références, effectivement, qui sont des petits clins d'œil, mais toute la pièce est une mise en abîme du théâtre, effectivement. La scène commence comme ça, c'est quelqu'un qui est pris dans une espèce de tourbillon et qui se dit, je vais dire que j'ai créé une pièce pour essayer d'avoir des informations pour savoir comment tuer un bonhomme, ce qui est quand même un truc assez particulier.
Voilà,
et ça nous parle du théâtre.
Voilà, alors tuer un bonhomme,
comment
c'est
la fiction se rejoint la réalité et inversement.
Alors apprendre comment tuer un bonhomme, c'est pas toujours très utile pour le journaliste que je suis, peut-être un jour, enfin on sait jamais. Par contre, apprendre à se poser des questions sur le théâtre, là vous m'avez quand même beaucoup facilité la tâche. Par exemple, il y a dialogue très court entre Sylvie et l'inspecteur.
Ça a marché hier soir au théâtre?
Bah, très bien, comme d'habitude.
Est-ce que, dites-moi, entre votre sortie de scène un peu avant la fin du deuxième acte et votre entrée au moins 5 bonnes minutes après le début du troisième, il y a un entr'acte?
Tout à fait, je vois que vous êtes bien renseigné, pourquoi?
Ça doit être agréable pour vous, vous avez une bonne demi-heure pour vous reposer.
Oh ben c'est pas trop, c'est un rôle extrêmement physique. Les personnages comiques demandent beaucoup d'énergie. Bah hier soir par exemple j'étais un peu fatiguée, j'en ai profité pour m'enfermer à clé dans ma loge et faire un petit somme, et hop, ça repart.
Bon, c'est vrai, Didier Bourdon, ça, les personnages comiques demandent une énergie incroyable, plus que pour les rôles dramatiques?
Qu'est-ce que vous dites, monsieur le journaliste?
Ça y est, il est fusé.
c'est physique. Ouais. C'est physique parce qu'il faut pas que ça le paraisse, mais c'est vrai que, bon, comme vous l'avez dit depuis le début, ça n'arrête pas, donc faut toujours être en alerte. Je pense que les pièces, en général, de toute façon, même dramatiques, sont même fatigantes. Mais là, disons que, voilà, là, il faut non seulement vivre intérieurement le drame des personnages, le côté tragique, et en même temps être en alerte pour avoir ce côté champagne.
Bon, jamais de sieste pendant l'entracte, là, comme on l'a entendu dans l'extrait de Dominique Pinon. Ça vous est déjà arrivé de dormir pendant un entracte?
Ah non, je peux pas. Mais non,
l'entracte, non.
C'est pas possible.
Entre les deux,
même
oui,
après, quand on sort de scène, on a surtout envie de rentrer. J'ai pas envie. Après, oui, peut-être.
Entre la matinée et la soirée,
mais
pas longtemps.
Oui, bien sûr.
Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais entendre une phrase, une très courte phrase de Marguerite. Marguerite, c'est la belle-mère. Hein, elle est jouée par Bernadette Le Sachet. Il y a un vrai fil rouge comique avec ce personnage qui, je le disais tout à l'heure, est toujours décalé quand elle rentre en scène. Elle est assez âgée et en référence à son âge, elle est un peu à côté de la plaque. Et pourtant, vous allez l'entendre, elle ne dit pas que des bêtises.
J'ai peut-être rien à voir dans tout ça, mais vous devriez comprendre, Antoine, que j'entre complètement dans la catégorie de votre public cible. C'est des gens comme moi qui vont encore au théâtre. Vous feriez mieux de m'écouter.
Ouais, pas tort, Benjamin Guillard. C'est pas un problème, ça, aujourd'hui, que dans les théâtres parisiens, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, quoi. Et puis, pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup d'ados.
C'est sûr que c'est un problème. Enfin, c'est bien que les personnes âgées viennent au théâtre, mais c'est sûr que le théâtre doit s'ouvrir à toutes les générations, et il n'y a rien de plus beau que de voir des jeunes dans les théâtres.
Mais pourquoi on n'y arrive pas? Ou pourquoi on attend?
Non, mais ça dépend où on va. Il y a un public. Il y avait des enfants l'autre jour, c'était très agréable d'entendre les enfants rire aussi. Il y a beaucoup de théâtres qui font un gros travail avec leur public, qui font venir des scolaires, qui font venir des jeunes.
Oui, mais au-delà des scolaires, comment attirer un public jeune au théâtre sans prendre le public ado pour...
Et pour des petits, en parlant du monde d'aujourd'hui, en essayant de les intéresser à ce qui peut susciter leur attention, en parlant du monde d'aujourd'hui, effectivement, ou alors de monter des choses en essayant de les intéresser, de pas être déconnecté de ce qu'ils vivent, oui, je pense.
Vous parliez de votre fille tout à l'heure, Didier Bourdon, ses copines, elles vont au théâtre aussi?
Elles viennent voir un spectacle, elles sont pas encore venues là, mais oui, elles sont allées voir l'autre fois d'ailleurs des classiques, il paraît que c'était très 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 bien joué, et parce qu'elle étudiait Le médecin malgré lui. Pièce d'ailleurs qui a été un peu inaugurale dans ma carrière d'ailleurs, et elles ont adoré, parce que je pense que la troupe est formidable et que voilà, il faut savoir aussi parfois aussi réécrire des petites choses, que ce soit pas trop long, et puis éviter la fameuse phrase que ressortait le directeur du rond-point Rib au théâtre. C'est le seul endroit où quand on regarde sa montre on pense qu'il y a 2 heures qui est passée, en fait c'est 10 minutes. Ça peut arriver,
c'est le mot de la fin. Bon, en tout cas on voit pas du tout le temps passer au théâtre du Gymnase pour Jo, pièce familiale, hein, s'il en est à découvrir, donc avec Didier Bourdon, Dominique Pinon, Audrey Fleureux et toute une bande de joyeux comédiens que vous mettez en scène. Benjamin Guillard, merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, pour les jeunes et les moins jeunes, direction la Géorgie pour sa 10e édition, le Tbilissi Photo Festival consacre une grande exposition à la photographie contemporaine du Sud-Caucase. C'est assez précis, hein. Le Sud-Caucase, donc une des ex-républiques soviétiques d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie. L'exposition intitulée « Par-delà les montagnes, la photographie du Sud-Caucase volume 1 » permet de voir combien les jeunes photographes de la région se débarrassent assez peu des prismes post-soviétiques. Le reportage pour VMDN de Régis Janté.
Pour qui s'intéresse à la photographie dans l'ex-Union soviétique, le moins qu'on puisse dire est que l'exposition surprend. Avec la vingtaine de jeunes photographes exposés à Tbilissi, fini un certain classicisme, un certain sérieux, sans parler des thèmes qui s'imposaient dans l'ère immédiatement post-soviétique, comme la guerre, l'isthme caucasien ayant été déchiré par plusieurs conflits, ou les sempiternelles célébrations des traditions locales. C'est ce qui a d'abord séduit Nesta Nijaradze, la directrice du Tbilissi Photo Festival.
Les approches artistiques ne sont pas
pas attendu aussi, en fait. C'est nouveau, c'est assez osé, il y a une vraie recherche. Et ça, c'était vraiment excitant de voir à quel point cette scène artistique, photographique, de la culture visuelle, parce qu'on a pas mal de projets qui sont en fait sur la frontière entre la photo et l'art contemporain, comment les artistes en fait cherchent une nouveauté dans l'expression.
Une nouveauté qui illustre par exemple le travail de Nata Sopromadze, jeune photographe qui s'inscrit dans une démarche purement artistique. Son questionnement, la mort, loin du traitement traditionnel d'un thème très présent dans la société géorgienne. Nata Sopromadze qui nous parle de son projet Immortel.
This is the ordinary people which I took picture of Georgian designer.
Ce sont des gens ordinaires que j'ai photographiés habillés par des designers modernes. Et je les ai imprimés sur des pierres tombales noires comme cela se fait traditionnellement ici. C'est ma tradition préférée dans la culture géorgienne, ces images imprimées sur les pierres tombales. Je l'ai juste fait pour jouer avec la mort.
L'envie de questionner les traditions traverse l'exposition. On la retrouve par exemple dans le travail de l'Azerbaïdjanaise Sitara Ibrahimova, un voyage des femmes qui reflète le changement des codes déterminant le rôle des femmes dans la société. Ou encore dans celui de Nazik Armenakian qui, elle, pour interroger la société à ses marges, a suivi des travestis d'Erevan, la capitale de l'Arménie. Des approches qui étonnent et séduisent Thomas Dvorak, actuel président de la célèbre agence photo Magnum et qui a débuté sa carrière de photographe en 1992 dans le Caucase.
La photographie soviétique, ou même, je pense que moi je suis arrivé ici, j'ai fait très documentaire, on a fait du noir et blanc, pellicule, et maintenant c'est très jeune, c'est vraiment post-soviétique, c'est un autre monde, mais c'est aussi, je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Là, ils sont tous ensemble, il y a un lien de cette génération qui passe les frontières.
Ce souci de passer les frontières, de se sentir comme touché par les problèmes du monde, est par exemple ce qui a animé Pirouza Khalapian avec son travail sur un hôpital psychiatrique désaffecté, où elle a superposé plusieurs plans sur une même photo, glissant ainsi du documentaire vers l'esthétique, comme pour mieux universaliser son propos.
Un jour, je suis tombée sur un hôpital psychiatrique qui était vidé de ses patients. Il n'y restait que leurs affaires. Dans cet immense bâtiment, les murs et ses affaires racontaient ce qu'on y avait vécu. Et moi, je voulais raconter à la société arménienne et au-delà ce que c'est pour nous un hôpital psychiatrique.
Par-delà les montagnes, la photographie du Sud-Caucase nous montre le travail de photographes qui s'emparent de toute la liberté qui leur est laissée et regardent autrement leur région et leur société qui se cherchent.
Le reportage de Régis Vanté. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec de la littérature et Laurent Binet pour son nouveau roman Civilisation paru chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.